Vous écoutez France Culture.
France Culture, bienvenue si vous nous rejoignez maintenant, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron renoue aujourd'hui avec le terrain à l'occasion du grand débat national dont le coup d'envoi officiel sera donné cet après-midi avec l'espoir de clore la crise des gilets jaunes. Et pour évoquer cette grande consultation, nous serons en ligne avec Benjamin Cauchy, porte-parole des gilets jaunes libres.
Dans votre journal également, deux policiers aux assises de Paris.
Oui, les deux fonctionnaires sont jugés pour le viol d'une touriste canadienne dans les locaux historiques de la police judiciaire parisienne. C'était en avril 2014.
Justice toujours. Laurent Gbagbo a été acquitté ce matin de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale.
La CPI qui a aussitôt ordonné donc la mise en liberté immédiate de l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Nous irons également au Zimbabwe où depuis l'annonce de la hausse brutale du prix du carburant samedi dernier, plusieurs manifestations violentes ont eu lieu dans tout le pays. Première grande vague de contestation depuis l'élection présidentielle l'été dernier. Enfin, le sort du Brexit est suspendu au vote aujourd'hui des députés britanniques, lesquels sont appelés à se prononcer sur l'accord de divorce conclu avec Bruxelles. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Après la guerre des pauvres avec notre invité Éric Vuillard, de la base au sommet, Emmanuel Macron, de l'ancien au nouveau régime de l'exercice du pouvoir à l'épreuve de la rue. Est-ce qu'Emmanuel Macron va changer sa manière de présider? On en parle avec notre invité, l'écrivain Patrick Rambaud, qui signe Emmanuel le Magnifique chez Grasset, et notre partenaire du nouveau magazine littéraire, Nicolas Domenac, qui sera à mes côtés pour l'interroger.
Merci, à tout à l'heure. Pour tenter de mettre fin au dialogue de sourds entre lui et le peuple, autant que pour relancer son quinquennat bousculé jusque dans son agenda par la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron est attendu dans l'heure cet après-midi pour y donner le coup d'envoi officiel du grand débat national. Lui qui s'était fait relativement discret après avoir été hué lors d'une visite surprise en Haute-Loire, c'était début décembre, renoue donc avec le terrain. À Grand-Bourtroude, petit bourg de 3800 âmes, le président a prévu de dialoguer aux côtés de quelques 600 maires. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, à la faveur de ce grand audit, on comprend bien comment le président entend retisser le fil d'une histoire, notamment avec les édiles, qui depuis plusieurs mois lui reprochaient son approche, disons, trop verticale du pouvoir. Reste qu'après avoir appris hier, non seulement que la Commission nationale du débat public ne piloterait pas ce débat, mais que deux membres du gouvernement seront désormais chargés d'animer cette grande concertation, eh bien, on a le sentiment que peu à peu l'opération, pourtant à peine commencée, pourrait déjà rater le virage qui devait conduire à ce grand renouvellement de la démocratie et de la politique.
Oui, il y a comme un parfum d'improvisation qui flotte autour de la façon dont l'exécutif organise ce grand débat. On apprend déjà ce matin, par l'intermédiaire du journal Le Figaro, qu'un très proche conseiller d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien, serait à l'origine de la défection de Chantal Jouanneau et de la Commission nationale du débat public. Ce conseiller aurait, nous dit le Figaro, à l'occasion d'une réunion qui se serait tenue à l'Élysée avant Noël, exigé la maîtrise de la rédaction du rapport final. La présidente de la Commission nationale du débat public aurait alors estimé que cette exigence ne ferait plus les garanties selon elle indispensables de neutralité et d'indépendance et en aurait tiré les conséquences. Pour la remplacer, l'exécutif, vous l'avez dit, a nommé hier deux secrétaires d'État chargés d'animer les discussions. Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique, et Sébastien Lecornu, lui en poste aux collectivités territoriales. Ça donne un peu plus encore le sentiment que le président de la République et le chef du gouvernement ont décidé de prendre ou de reprendre les choses en main. D'autant que parallèlement, on ne connaît toujours pas le nom des personnalités chargées de garantir l'impartialité des débats. Ce sera un collège de 5 membres, nous a-t-on dit, qui seront officiellement désignés vendredi. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, avait annoncé hier que l'ancienne patronne de la CFDT, Nicole Notat, en faisait partie avant d'être démenti par les services du Premier ministre. Ces nominations et ce cafouillage sont de nature à alimenter le soupçon que des choses non avouables se joueraient en coulisses et surtout que l'exécutif serait en train de verrouiller ce débat afin de légitimer ou de relégitimer la politique menée par Emmanuel Macron depuis 1 an et demi. Dès lors, cette improvisation donne prise aux éventuelles critiques sur le fait que ce grand débat pourrait n'être qu'un alibi et fait craindre, compte tenu de l'actuel climat de défiance vis-à-vis des responsables politiques, que ce grand débat soit perçu par beaucoup comme une farce politique.
Merci Stéphane Robert. Et pour continuer d'évoquer donc ce grand débat national, nous sommes en ligne avec Benjamin Cauchy, porte-parole des Gilets jaunes libres. Bonjour monsieur. Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends parfaitement, bonjour.
Bien, bonjour. Tout d'abord, avez-vous prévu de participer à cette consultation?
Eh bien, nous sommes dans une grande hésitation concernant notre participation à ce grand débat national. Et votre confrère, Monsieur Robert, vient de résumer parfaitement la situation. Nous avons le sentiment d'une grande partialité dans la maîtrise de ce débat national. Nous sommes relativement, incertain de la transparence et de l'indépendance de ce grand débat. Nous regrettons bien évidemment le départ de Madame Jouanneau, avec qui je m'étais entendu il y a de cela 15 jours et qui m'exprimait clairement sa volonté d'indépendance vis-à-vis du gouvernement. Donc un problème de partialité et puis un problème aussi vis-à-vis de cette lettre que nous avons tous reçue en tant que citoyens et dans laquelle le président de la République précise bien qu'il a été élu sur un cap politique et qu'en aucun cas il ne changerait son fusil d'épaule et qu'il y resterait fidèle. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles nous sommes plus que dubitatifs.
Vous ne voulez pas tenter l'expérience en dépit de vos soupçons, de vos doutes quant au fait que ce grand débat pourrait constituer un piège pour en somme gagner du temps, si on a bien compris.
Mais vous savez, les citoyens, ils ont envie de s'exprimer, les gilets jaunes ont envie de s'exprimer, ils s'expriment depuis plusieurs semaines dans la rue. Maintenant, si une majorité de citoyens demande par le biais de ce grand débat la réinstauration de l'ISF, alors que le président de la République a dit non, si une grande majorité des Français demande une réindexation des retraites, des allocations d'adultes handicapés, des pensions d'invalidité, ce à quoi le président de la République se refuse, à quoi cela va-t-il servir? Donc clairement, si les citoyens participent à ce grand débat national, il ne faudrait pas qu'il soit conclu par un rapport, d'autant plus que le rapport à ce que je viens d'entendre serait somme toute partial. Le seul intérêt qu'il pourrait y avoir au terme de ce débat, c'est que le président de la République, propose un texte de politique générale sur son cap jusque 2022 par voie référendaire. Là, ça pourrait avoir du sens.
Une question de Stéphane Robert.
Un référendum par voie référendaire, vous voulez dire, c'est ça qui permettrait de lever vos soupçons et vos doutes sur l'impartialité de ce débat ?
Mais clairement, oui, absolument. Les gilets jaunes, les Français qui sont mobilisés dans la rue depuis plusieurs semaines, ont besoin de s'exprimer, ont besoin d'une respiration démocratique. Et tous les débats que l'on peut mettre sur la table depuis plusieurs semaines, puisqu'on omet également de préciser que grâce à vous, médias, la parole est libre et nous avons pu nous exprimer depuis de longues semaines. Donc les sujets sont d'ores et déjà sur la table. Le débat va peut-être permettre d'affiner certains sujets, de casser certains tabous, des sujets sur lesquels le gouvernement fait une omerta pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, au terme de ce débat, il y aura des conclusions. Si les conclusions sont rendues par un président de la République qui ne souhaite pas changer de cap, à quoi cela va-t-il servir ? Donc clairement, cette aspiration démocratique et cette aspiration d'expression qu'ont les Français et les Gilets jaunes notamment, qu'y a-t-il de mieux dans une démocratie telle que la France que de passer devant les urnes ?
Maintenant que le grand débat est lancé, est-ce que vous appelez toujours à manifester samedi prochain ?
Alors, il faut que la mobilisation continue absolument et vous avez sans doute constaté que samedi dernier, il y avait un regain de mobilisation. La trêve des confiseurs est également finie pour les Gilets jaunes. Et au-delà de ce regain de mobilisation, il y a quand même un déclin de violence, même si à la marge, et c'est plus que regrettable, il y a encore des cas, c'est des agressions, notamment sur vos confrères qui sont plus que regrettables et que je dénonce à votre micro ce jour. Mais la mobilisation doit bien évidemment continuer. Et ce ne sont pas seulement les manifestations du samedi, je pense aussi à des manifestations qui ont lieu le dimanche matin, qui sont celles de femmes gilets jaunes, de mères célibataires, de veuves qui sont dans des situations de détresse et qui ont également besoin de s'exprimer.
Bien, merci Benjamin Cauchy, porte-parole, je le rappelle, des Gilets jaunes, libre d'avoir été en direct avec nous au téléphone aujourd'hui. À partir de ce mardi, près de 9 millions de foyers vont recevoir sur leur compte en banque par virement un acompte de 60% sur leur crédit d'impôt, montant total pour le fisc 5,5 milliards d'euros, une mesure destinée à permettre aux ménages de ne pas faire une avance de trésorerie trop importante. Elle concerne les dons, les investissements locatifs, mais aussi les emplois à domicile ou bien encore les gardes d'enfants. Les avocats appelés à nouveau à se mobiliser aujourd'hui contre la réforme de la justice de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Plus d'une centaine de barreaux appellent à la grève alors que le projet doit être examiné en deuxième lecture cet après-midi à l'Assemblée. Le procès des deux policiers jugés aux assises de Paris pour le viol d'une touriste canadienne au siège de la police judiciaire parisienne s'est ouvert hier. Près de 5 ans après l'affaire qui avait fait scandale, Émilie S. a donc retrouvé les deux hommes qu'elle accuse de l'avoir violée à l'issue d'une soirée arrosée dans les locaux du mythique 36 quai des Orfèvres. Les deux fonctionnaires se disent innocents. Les débats se sont réellement ouverts ce matin avec notamment le témoignage de l'enquêtrice de l'IGPN, la police des polices. Compte rendu d'audience avec Florence Turme.
L'IGPN, la police des polices, avait entendu à tour de rôle la plaignante et les policiers incriminés le matin même des faits. À la barre, la commissaire Nathalie Chaud détaille les dépositions, à commencer par celle de la jeune femme présente à l'audience, grande et mince, cheveux courts, assise très droite sur le banc de la partie civile. Ce soir-là, elle a expliqué avoir rencontré des policiers dans un pub irlandais tout près du 36 quai des Orfèvres, accepté de visiter le commissariat. Elle trouve l'invitation fun et se sent particulièrement en confiance aux côtés des fonctionnaires. Au 36, les gardiens en poste les voient arriver bras dessus, bras dessous, complices. 2 heures plus tard, elle ressort des locaux en pleurs, affirme avoir été plaquée sur un bureau, tentée de résister, violée à plusieurs reprises. L'un des deux policiers entendus par les GPN évoque d'abord un simple bisou sur la bouche, une attitude délibérément provocatrice d'une jeune femme ivre, avant d'admettre, lors de sa deuxième déposition, une relation librement consentie. Ils sont deux à comparaître, libres, assis l'un derrière l'autre dans la salle d'assises, vêtus de manière quasi identique, veste noire, pantalon gris foncé, deux hommes à qui le président a brièvement donné la parole et qui plaident tous les deux leur innocence. Ça a été un cataclysme dans ma vie privée, un coup d'arrêt à ma vie professionnelle. Depuis, je suis dans un placard, lance le premier. On nous a affublés d'un costume d'horreur, reprend le second, la voix légèrement tremblante. Jamais je n'aurais pu faire une chose pareille à cette dame, ni d'ailleurs à n'importe quelle dame. Ils encourent l'un et l'autre une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour viol en réunion.
Shérif Shekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg le 11 décembre dernier, avait-il prémédité son acte? En tous les cas, ce qui ressort visiblement des derniers éléments de l'enquête dont le journal Le Monde a eu connaissance. Il semble en particulier que le djihadiste avait non seulement cherché pendant plusieurs semaines à se procurer des armes, mais avait aussi confié à sa mère son intention de mourir. Laurent Gbagbo a été acquitté de crimes contre l'humanité ce matin par la Cour pénale internationale. Premier ancien chef d'État à avoir été remis à la CPI, Laurent Gbagbo était jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, né de son refus de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Angélique Bouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. La CPI a aussitôt ordonné la mise en liberté immédiate de l'ancien président. Sur quoi s'est basée cette décision, Angélique ?
L'accusation n'a pas prouvé qu'il y a eu un commandement à commettre des crimes, a expliqué le juge Kudo Tarfusser. Lors de cette audience qui n'a duré que quelques minutes, l'audition des témoins depuis le début du procès en 2016 et les preuves présentées ne démontrent pas qu'il y a eu un plan commun, dit-il, plan qui constituerait donc un crime contre l'humanité. Laurent Gbagbo, 73 ans, et Charles Blé Goudé, 47 ans, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, poursuivis lui aussi, sont donc considérés comme innocents et doivent être libérés, dit la Cour pénale internationale. Mais, et c'est important, il peut y avoir un appel sous 24 heures, a néanmoins précisé le juge, alors que la salle réagissait un peu bruyamment. De façon assez inhabituelle, la décision de ce matin n'a pas été transmise par écrit à l'accusation, qui a réagi donc en demandant une suspension de séance. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est le premier chef d'État à avoir été remis à cette cour. C'était en 2011 et très peu de temps après les violences commises pendant cette période post-électorale de 2010 et 2011, pour lesquelles il était poursuivi. Il refusait donc, vous le disiez, de céder le pouvoir. La CPI le poursuivait pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtres, viols et persécutions. Il y avait eu à l'époque plus de 3000 morts. La décision de ce matin sera sans doute très commentée. Depuis sa création en 1998, la Cour pénale internationale est en effet régulièrement critiquée pour sa difficulté à juger des personnalités politiques de haut rang. On peut citer l'abandon des poursuites faute de preuves contre le président kényan, c'était en 2014, ou bien l'acquittement du vice-président congolais en juin 2018.
Merci Angélique Bouin. Le procédé est connu en Afrique en période d'élection, de troubles ou de manifestations. Nombre de pouvoirs usent et même abusent des coupures d'Internet. C'était le cas récemment en République démocratique du Congo et c'est encore le cas aujourd'hui au Zimbabwe au deuxième jour d'une grève générale émaillée de violentes manifestations contre la forte hausse des prix du carburant décrétée par le gouvernement. Le tout nouveau président élu l'été dernier, après 37 années de règne autoritaire de Robert Mugabe, avait promis de relancer l'économie. En vain, étranglé financièrement, l'économie zimbabwéenne n'en finit pas de dégringoler. La situation s'est même aggravée ces derniers mois et en particulier, il devient de plus en plus difficile de se procurer certains produits de base, à commencer donc par le pétrole. Les précisions de notre correspondant dans la région, Noé Oshebeoudin.
Les rues étaient vides ce matin à Harare et Bulawayo, les deux grandes villes du pays. Les dégâts de la veille sont encore là, des pneus brûlés, des routes bloquées, des magasins vandalisés. Sont aussi présents les camions et les hélicoptères de la police anti-émeute, maître des rues depuis hier. La police a encore utilisé des gaz lacrymogènes ce midi pour disperser les quelques manifestants venus se rassembler. 5 morts et plusieurs dizaines de blessés sont à décompter. Les forces de l'ordre ont en effet tiré à balles réelles pour disperser la foule et la police aurait mené des opérations d'intimidation pendant la nuit, selon plusieurs ONG, notamment au quartier général du MDC, le parti d'opposition. Le Zimbabwe est au bord du chaos. Les pénuries et les grèves s'enchaînent depuis 2 mois dans ce qui représente la plus grave crise économique du pays depuis 10 ans. La nette augmentation du prix à la pompe décidée ce samedi a mis le feu aux poudres et a mobilisé dans les rues des dizaines de milliers de personnes depuis hier. La répression est-elle totale? 5 morts donc, mais aussi la coupure de toutes les lignes internet et le blocage des réseaux sociaux. Facebook, Twitter et WhatsApp sont inaccessibles depuis ce matin. Une instruction donnée par le gouvernement pour éviter l'organisation de manifestations comme celle de la veille. Le président Emmerson Mnangagwa est lui en déplacement, parti pour une tournée en Russie et en Europe pendant 5 jours. À la tête du pays, on retrouve donc le vice-président à la poigne de fer, Constantino Chiwenga, qui n'est autre que l'ancien chef d'état-major de l'armée, responsable du coup d'état militaire en novembre 2017.
Conséquence de la course à la diminution des coûts de production dans une économie mondialisée. La catastrophe du Rana Plaza avait suscité un émoi planétaire et braqué les projecteurs sur la face sombre de la sous-traitance des grandes marques occidentales. Sauf que si l'industrie textile au Bangladesh est connue pour les mauvaises conditions de sécurité, elle l'est aussi pour la faiblesse des salaires et c'est le sens de ce mouvement entamé il y a une semaine. Hier, des milliers d'ouvriers du textile confectionnant des vêtements pour les enseignes d'habillement mondial ont à nouveau débrayé. La veille, le gouvernement avait négocié un compromis entre syndicats et fabricants convenant d'une augmentation de salaire, une hausse jugée insuffisante. Alors que plusieurs milliers de migrants d'Amérique centrale ayant fui la violence dans leur pays d'origine vivent depuis près de 3 mois maintenant dans des camps de fortune au Mexique avec l'intention de demander l'asile aux États-Unis. Hier, ce sont des centaines d'autres migrants honduriens qui ont pris la route vers le nord. Un périple de plusieurs semaines, voire plusieurs mois qui doit les conduire, là encore, à la frontière mexicaine. De leur côté, les États-Unis, dont le président n'a de cesse de dénoncer ces caravanes de migrants, ont annoncé que l'armée américaine prolongerait jusqu'au 30 septembre sa mission de maintien de la sécurité à la frontière. Quand de lâches politiciens mettent en marche le compteur de morts, c'est par ces mots que le fondateur d'une ONG de sauvetage de migrants a dénoncé hier la décision de l'État espagnol d'empêcher son bateau Open Arms de prendre la mer pour aller sauver des vies en Méditerranée. Après que l'Italie et Malte lui avaient fermé leur port, le navire avait accosté fin décembre dans le sud de l'Espagne avec à son bord 311 migrants secourus au large de la Libye. Il devait repartir le 8 janvier dernier après avoir refait le plein de provisions. Seulement voilà, les autorités portuaires espagnoles le lui ont finalement interdit. Il faut dire que depuis son arrivée au pouvoir, le chef du gouvernement socialiste espagnol, dont le pays constitue aujourd'hui la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe, a opéré un virage pour le moins radical dans sa politique sur les migrants. À Londres, où même la célèbre tour de Westminster a perdu depuis quelques mois déjà la maîtrise du temps, la situation semble décidément chaque jour un peu plus incertaine, sinon chaotique à mesure que se rapproche la date fatidique du 29 mars, censée marquer la sortie officielle du Royaume-Uni de l'UE. Aujourd'hui encore, nouvelle chronique d'un échec annoncé. Les députés de la Chambre des communes, appelés à se prononcer sur l'accord de Brexit négocié avec Bruxelles, devraient massivement rejeter ce texte, inaugurant ainsi un nouvel épisode de la crise politique majeure qui a saisi tout le pays depuis un certain 23 juin 2016, lorsque 51,9% des Britanniques avaient choisi donc de quitter l'UE. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Il y a encore Theresa May, dont la ténacité n'est plus à démontrer, a de nouveau exhorté les députés à donner une seconde chance à son accord de Brexit. Seule certitude, en réalité, tous ces débats témoignent aujourd'hui d'une vraie réorganisation des forces au Parlement, car en réalité, Antoine, si la plupart des députés rejettent effectivement ce texte, ça n'est pas toujours pour les mêmes raisons.
Oui, c'est un peu comme si le Parlement était en train d'exploser. Les grands partis sont divisés et il y a aujourd'hui une quinzaine de petits groupes de députés, presque tous en colère, mais pour des raisons très différentes. Chez les conservateurs, les défenseurs d'un Brexit dur, comme Boris Johnson et David Davis, appellent à voter contre le texte proposé par Theresa May parce qu'ils trouvent que cet accord est trop mou, trop mièvre, mais la Première Ministre ne peut pas non plus s'appuyer sur les élus europhiles de la majorité qui pensent à l'inverse que l'accord négocié avec Bruxelles met en danger l'économie britannique. Les unionistes nord-irlandais, eux, s'opposent au gouvernement parce qu'ils ont peur que le Brexit entraîne une modification des règles commerciales. Et puis les Verts et les libéraux-démocrates votent contre par principe. Résultat, ce texte pourrait être rejeté à une écrasante majorité. C'est d'ailleurs ce que prévoit le chef de file des travaillistes. Jeremy Corbyn a fait retirer ce matin un amendement qui aurait pu servir d'échappatoire au gouvernement. Et Michael Gove, le ministre de l'Environnement, résume la situation avec cette phrase apocalyptique empruntée à la série Game of Thrones. Winter is coming, l'hiver arrive.
Et puis il faut aussi préciser, Antoine, que tout ce chaos politique, en somme, aura été assez largement alimenté par la campagne diffusée sur Internet.
Alimenté et avec des sommes colossales. Oui, le gouvernement a dépensé ces dernières semaines un peu plus de 100 000 euros d'argent public pour mettre en ligne des vidéos avec le message suivant: si vous voulez limiter l'immigration, soutenez l'accord de Theresa May. Plus intéressant encore, cette campagne s'est faite massivement sur les réseaux sociaux, comme en 2016 avec le scandale de Cambridge Analytica. On découvre qu'un obscur groupe de pression pro-Brexit a dépensé ces trois derniers mois plus de 90 000 euros pour envoyer des publicités ciblées sur Facebook. Il y en a eu 200 différentes rien que la semaine dernière. Et les militants qui réclament un deuxième référendum, eux, ont dépensé de la même manière près de 400 000 euros pour faire du ciblage sur Internet.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. La Pologne toujours sous le choc après le décès du maire de la grande ville portuaire de Gdansk, victime d'une attaque au couteau sur scène devant des centaines de personnes alors qu'il participait à une grande opération annuelle de charité en faveur des hôpitaux. C'était dimanche, hier, dans un rare moment d'unité, tandis que la classe politique, tout parti confondu, condamnait ce geste de haine. Des milliers de Polonais ont, eux, marché dans les rues du pays pour manifester leur opposition à cette même haine. C'était il y a tout juste 100 ans à Berlin, Rosa Luxembourg, figure majeure du socialisme révolutionnaire et de l'histoire politique du XXe siècle, était assassinée lors de la répression de la révolution spartakiste. 100 ans après, l'Allemagne donc se souvient. Une marche de recueillement a été organisée dimanche dernier dans les rues de la capitale. Une exposition sur le centenaire de la révolution s'est également ouverte. Mais au-delà, que reste-t-il de cette figure révolutionnaire, mythique? Élément de réponse avec notre correspondant en Allemagne, Ludovic Piétenu.
Rosa la Rouge, qualifiée d'icône pop par le quotidien allemand de gauche Tageszeitung. Elle est un symbole à plus d'un titre, selon l'historien Peter Schöttler.
La citation clé pour Rosa Luxembourg, c'est que la liberté, c'est toujours la liberté de l'autre.
Ancien directeur de recherche au CNRS, Peter Schöttler enseigne à l'Université libre de Berlin.
Rosa Luxembourg est une femme, est une juive, est une intellectuelle. Ça permet de s'identifier. Ce n'est pas une extrémiste. Certes, c'était une révolutionnaire, mais c'était une révolutionnaire face à un régime impérial non démocratique.
Aujourd'hui, la gauche allemande se déchire. Chacun revendique son héritage. Chacun la réclame pour la mémoire allemande.
Rosa Luxembourg peut redevenir une figure de trop de la gauche démocratique et puis du mouvement des femmes, de toutes sortes d'initiatives progressistes, mais elle est irrécupérable. Et ça, c'est évidemment très sympathique. Elle est irrécupérable pour l'extrême droite, et même pour une certaine droite officielle.
Dans cette période de commémoration, ce murmure de l'international, c'était dimanche à Berlin, alors que la gauche, en France comme en Allemagne, est divisée, c'est cette figure de Rosa Luxembourg qui pourrait, selon l'historien Peter Schöttler, cimenter la gauche et lui permettre de redevenir majoritaire dans un contexte de montée des populismes et des nationalismes.
Un reportage à Berlin signé Ludovic Piétenu. On termine avec un mot rapide de météo, temps plus calme mais gris sur la majeure partie du pays, à l'exception du pourtour méditerranéen. Les températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 4 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.